Je lui ai demandé tout d'abord quelles étaient les sources qu'elle avait utilisées pour étudier cette question.
Eh bien, malheureusement, les documents sont assez rares. Nous avons quelques bois-fiefs qui datent la deuxième moitié du XVe siècle et qui nous permettent de dire que déjà il y avait une sidérurgie dans cette région.
Qu'est-ce que c'est des bois-fiefs? C'est une sorte de contrat de fermage, c'est ça?
C'est lorsque un seigneur arrente, moyennant une rente annuelle, à quelqu'un une terre. Dont celui qui le prend à bail, c'est en somme une sorte de bail perpétuel. Il a la possibilité de léguer ça à ses enfants ou de le vendre, mais toujours sous le contrôle du seigneur, qui doit continuer à percevoir à perpétuité la rente féodale.
Voilà. Alors, ça, c'est donc vers cette époque-là, fin XVIe siècle, les documents sont rares. Je crois que c'est à partir du XVIIe qu'on a des documents en quantité plus importante.
Oui, c'est à partir du XVIIe siècle que nous avons alors des minutes de notaire de façon régulière et homogène. Autrement, nous ne connaissons que l'enquête de 1552, faite pour des raisons fiscales, disant que dans le nord de l'Agenais, les forges et les verreries ruinent les forêts par les besoins qu'elles ont en charbon de bois.
Oui, c'est un problème dont nous reparlerons dans le courant de cette émission. Les minutes de notaire antérieures, elles auraient dû être gardées, ou enfin, elles ont peut-être été gardées un moment.
Il y en a peut-être encore dans quelques greniers, mais la plupart ont disparu.
On peut peut-être lancer un appel, là, puisqu'il y a quand même pas mal de gens qui écoutent. Si
Ah oui.
vous trouvez dans votre grenier à l'époque, c'était des parchemins, forcément,
Pas
non?
forcément, non, les registres de notaire sur papier ou alors des documents d'exploitation de ces anciennes entreprises.
Oui, on n'en a retrouvé aucun, quoi.
Je n'ai trouvé aucun document comptable ou autre concernant ni les forges ni les papeteries, et pourtant il y a eu plus de 30 usines de ce genre qui ont fonctionné.
Et vous avez su que même récemment, il y avait des minutes de notaire qui avaient été détruites.
Eh bien, c'est ce que m'a raconté Maître Coulonge, qui était un notaire de la Sauveterre et connu comme un préhistorien, qui a essayé de sauver celle qu'il a pu et qui m'a raconté être arrivé dans une ferme où le dernier registre de notaire était en train de passer sous la marmite à cochon.
C'est peut-être efficace, mais en fait, c'est quand même une perte
C'est une perte
regrettable.
irréparable pour l'histoire.
Voilà. Avec les documents que vous avez, on arrive quand même à pouvoir décrire à peu près bien cette activité, donc à partir du XVIIe siècle.
À partir du XVIIe, oui, nous avons suffisamment d'actes, soit dans l'étude de Sauveterre, soit dans l'étude de Fumel, pour savoir quelles étaient les usines, qui les exploitait, et avoir une idée un petit peu de la condition sociale des ouvriers et des maîtres de forge.
Voilà. Alors, la technique précise de production de fer et de la fonte, c'est pas spécialement votre domaine, c'est pas exactement ce que vous avez recherché. Est-ce que vous pouvez malgré tout nous en dire un mot?
Eh bien, les premières forges peuvent remonter très loin dans l'histoire. On trouvait ce qu'on appelait des renardières, c'est-à-dire que c'était le stade le plus simple, le plus simpliste d'exploitation. Et puis alors les forges à la catalane, qui avaient été souvent introduites dans la région par des maîtres ferriers qui venaient de l'Ariège. Et ce n'est qu'au 19e que ça s'est enrichi quelques-unes de ces forges se sont enrichies de hauts fourneaux et de fonderies d'affinage.
Oui, les hauts fourneaux dont on voit d'ailleurs des traces encore, puisqu'il y en a un qui est bien visible à Blanquefort.
À Blanquefort, il y en a un autre dans l'ancienne paroisse de Lastreille qui a été classé. Et il y avait des restes aussi à Cusorne, mais on ne voit que le bas du haut fourneau.
Oui. Ces renardières, c'était des petits fours, si je comprends bien, qui pouvaient être un peu dispersés dans les bois.
Oui, et ça permettait simplement la transformation du minerai brut en gueuses de fonte, c'est-à-dire des sortes de lingots de fonte qui étaient ensuite repris par des usines plus importantes qui, à partir de cette gueuse de fonte, pouvaient affiner la fonte et en même temps fournir des produits finis.
Oui. Alors ces usines, ces forges étaient-elles sur le bord de des rivières parce qu'il fallait une force motrice sans doute pour actionner des marteaux ou
Oui, pour actionner des marteaux et d'autre part pour actionner surtout les soufflets qui permettaient d'élever considérablement la température jusqu'à un point de fusion suffisant.
Et la fusion se faisait avec du charbon.
Ça faisait avec du charbon de bois, d'où évidemment les récriminations des gens parce qu'on déboisait trop pour alimenter les forges.
Est-ce qu'on peut citer les forges qu'il y avait, mettons, au XVIIe siècle, le long de l'Allemance?
Ah, le long de l'Allemance, oui, il y a les premières. La première est à Libos. On a un texte de 1450 qui la situe. Et puis, il y a ensuite Martiloc. En remontant, les trois forges de Cusorn, c'est-à-dire Pombier, Ratier et La Forge. Pombier étant aussi indiqué dans un bail de 1450. Puis, en remontant, Ratier, La Forge de La Streille, La Forge de Grèze.
La Streille et Grèze qui doivent se trouver dans la commune de Saint-Front, je suppose.
Grèze
est peut-être sur Sauveterre, enfin c'est
Sauveterre, peu. Oui. Puis la forge même de Sauveterre.
Et Blanquefort.
Et Blanquefort sur la Briolance.
Oui. Où il y avait peut-être deux forges.
Il y a peut-être eu d'ailleurs deux forges parce qu'on ne retrouve à l'heure actuelle que les barrages et on ne sait pas toujours quelle était l'usine auquel correspondait ce barrage.
Oui. Alors on peut ajouter que sur la Lède, il y avait aussi des forges, Courance, Ratis, Gavaudin, et puis il y avait des forges qui étaient sur le Dro aussi, du côté de l'Abraham. Tout ça, c'était finalement la même région qui disposait de minerais de fer et de charbon de bois, et d'eau.
Oui, parce qu'en somme, les conditions qu'il fallait réunir, c'était avoir de l'eau pour la force motrice, le minerai de fer, évidemment, qui était sur place, et du charbon de bois pour faire fonctionner ces usines. C'est pourquoi il n'y avait en réalité que deux grandes régions pré-industrielles dans notre Agenais, le Haut-Agenais, donc ces trois vallées de la Lède, de la Briolance et de la Lémance, et puis la région de Casteljaloux.
Voilà, il y avait quand même quelques activités industrielles dans d'autres endroits de la Genêt, mais elles étaient plus dispersées. Bon, corderie à Tonnens, de nombreux moulins à blé un peu partout, des tanneries. Et puis, mais c'est une implantation assez récente, il y avait une grande fabrique de toiles de voile à Agen, mais elle ne datait que du dernier tiers du XVIIIe siècle.